Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour votre santé, bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de retrouver notre doc aujourd'hui, le docteur Walid Mekedem. Bonjour doc.
Bonjour Philippe, comment ça va ?
Ça va, ça me fait plaisir de vous voir, ça sent le ramadan.
C'est vrai, ça approche et puis à chaque fois il y a une petite ambiance ici, donc ça me fait plaisir de revenir.
Voilà, j'espère que vous serez là pendant le mois du ramadan, doc.
On verra, je ne promets rien.
J'ai établi votre contrat.
On verra.
Validé par l'imam Abdelali Mamoun.
Affaire à suivre.
Vous êtes médecin généraliste et vous partagez vos connaissances sur votre chaîne YouTube qui maintenant porte votre nom.
Exactement.
Et vous cartonnez, doc.
Docteur Walid Mekedem sur YouTube. Au moment où on fait cette émission, on est à 130 000 abonnés. Donc j'invite les auditeurs à s'abonner. S'ils sont intéressés en tout cas par le contenu médical. Hein.
Voilà, beaucoup d'informations, mais vous explosez. Voilà.
En espérant que ça continue.
Ça fait plaisir, soyez pas modeste.
Ça fait plaisir.
Médicaments, la notice, c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler des classes de médicaments les plus courantes, de leur intérêt, de leur fonctionnement et de leurs effets indésirables les plus fréquents. Parce que les médicaments ne sont pas des bonbons, contrairement à ce que pensent les Français.
Alors exactement, il y a beaucoup de médicaments très courants qui sont consommés alors que... Voilà, qu'on devrait limiter justement leur consommation. Tout le monde ne sait pas forcément pourquoi, et je pense qu'on va revenir sur les médicaments en tout cas les plus fréquents et dire voilà quand est-ce qu'il faut les prendre et quand est-ce qu'il faut les arrêter.
Mais les médicaments, c'est pas des produits ordinaires, hein. Parfois l'effet de petites molécules est important sur votre organisme, hein. Et peu de gens connaissent le mécanisme d'ailleurs de comment ces molécules agissent.
Exactement, donc en fait c'est pour ça il y a beaucoup de médicaments qui sont banalisés. Et c'est pour ça, des fois, j'utilise le terme de bonbon parce que les gens pensent même plus, enfin, oublient le fait qu'on est quand même sur une molécule chimique, un médicament, et que tout médicament peut avoir des effets indésirables. Alors, évidemment, l'idée de la vidéo, c'est pas de dire, ah, les médicaments, c'est pas bien, mais c'est de dire que le médicament, il est fait pour être pris à tel moment, sur telle durée, chez telle personne. Et que dès qu'on sort de ces cases-là, on doit plus prendre.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont prescrits à la légère?
Alors, comment dire, c'est un peu compliqué de dire ça parce que il y a tellement de monde qui prend des médicaments, il y a tellement de prescriptions. Ça dépend en fait, c'est du cas par cas, c'est difficile de répondre à cette question parce que d'un côté, on a le médecin qui prescrit et de l'autre côté, on a aussi le patient parfois qui demande. Et des fois, c'est l'addition des deux qui fait qu'on se retrouve avec des médicaments qui sont prolongés alors qu'on ne devrait pas forcément.
Quand vous parlez de patients qui demandent, il vous arrive de voir des gens qui viennent avec leur petite liste de prescriptions ?
Je pense que tout médecin connaît cette situation, le patient arrive avec une liste de médicaments en disant j'ai besoin de ça. Donc quand en plus ce schéma se reproduit, et je vais pas vous mentir, ça se reproduit très souvent, parfois c'est difficile de faire le tri, hein. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est très chronophage, et puis on n'a pas envie d'être tout le temps non plus dans l'affrontement, hein. C'est-à-dire il y a des personnes qui viennent, je veux ça. Comment vous faites dans cette situation, Philippe, quand en plus vous savez que cette situation elle se reproduit 4, 5, 6 fois dans la journée? C'est compliqué, hein.
Ils viennent carrément et c'est eux qui demandent de la prescription.
Franchement, j'ai des photos parce que des fois, j'arrive avec des listes vraiment qui ressemblent à la liste avec laquelle vous allez faire vos courses. Et du coup, des fois, c'est tellement que je prends une photo et voilà, j'envoie. Je dis, vous avez vu, j'invente rien. Donc voilà, c'est vraiment des deux côtés. D'une part, il y a aussi le médecin, c'est vrai, c'est sa responsabilité. Mais il y a aussi, de l'autre côté, le patient aussi à qui il faut donner une certaine éducation sur le sujet pour qu'il sache que c'est pas banal de prendre des médicaments, même si c'est juste, on verra, par exemple, un médicament pour l'estomac ou un antidouleur, tout simplement.
Et puis, il y a aussi les mésusages, hein. Il y a des médicaments qui sont pris dans des indications qui ne sont pas les bonnes. Ça arrive aussi.
Donc, là, on pourrait parler de beaucoup de médicaments. On va revenir sur ceux qui sont, en tout cas, les plus fréquents. Mais effectivement, il y a des gens qui prennent des médicaments en pensant que ce serait utile pour ça. Mais en fait, c'est une erreur. Et du coup, forcément, c'est pas une bonne chose.
Alors, on va commencer par ce qu'on appelle les antidouleurs, hein, la famille des antidouleurs. Ils sont vendus sous quelle marque, docteur Mekedem ?
Alors, les antidouleurs, faut savoir qu'il y a trois paliers. Donc, 1, 2, 3, en fonction justement du niveau de votre douleur. Et du coup, il y en a énormément, des médicaments antidouleurs. Mais si on s'arrête sur une classe, on peut s'arrêter d'abord sur la première, la plus fréquente, la classe 1, avec, on va dire, la star, c'est le paracétamol. Donc, le paracétamol, lui, il est vendu sous différentes marques, que ce soit Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, et j'en passe. Et c'est vrai que...
C'est la même molécule.
C'est pareil.
Ouais.
C'est kiff-kiff. C'est juste que, bon, comme c'est un médicament ancien, au bout d'un moment, le brevet, il passe dans différents laboratoires, tout le monde peut le fabriquer, ça marche très bien, tout le monde le fait, et chacun fait sa marque. Mais le médicament, enfin la molécule à l'intérieur, c'est pareil. Mmh. C'est du paracétamol. Et ça, c'est très, très consommé.
Alors, comment ça agit, d'ailleurs parce que c'est quand même très efficace, hein.
C'est très efficace sur les légères, sur les douleurs légères à modérées et sur les états fébriles, quand vous sentez frissonnant, fiévreux, etc. Mécanisme, franchement, en tout cas au niveau de... Moi, je saurais pas vous l'expliquer. Je sais qu'il y a une part d'un peu de mystère, d'ailleurs, sur le mécanisme du paracétamol. Tout le monde saurait pas vraiment l'expliquer. Mais après, moi, je suis pas chimiste. Hein. Je sais que ça marche.
Et que c'est efficace. Parce que tous ceux qui le prennent constatent que ça marche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le prennent aussi régulièrement. Mais savoir sur quelle zone du corps ça agit, moi, ça me fascine.
Exactement. Alors, il y a des médicaments pour lesquels, on va dire, les mécanismes d'action sont bien connus. Paracétamol, un peu différent. Mais en tout cas, effectivement, surtout, on se rend compte de l'efficacité quand on n'a pas l'habitude d'en prendre. C'est-à-dire quand on en prend vraiment très peu souvent, quand on commence à avoir un mal de tête, qu'on prend un Doliprane ou un Dafalgan et Feralgan et que dans la demi-heure ça passe, on dit waouh, quand même, c'est assez magique.
Alors, quels sont les risques finalement de ces médicaments, de cette famille ?
Alors, le paracétamol, on va dire qu'il y a deux grands risques et je vais revenir sur le premier. Qui est pas forcément connu de tout le monde. C'est par rapport, par exemple, aux maux de tête. J'ai parlé de maux de tête, je dis on prend du paracétamol, ça soulage. C'est vrai, mais il y a des personnes qui ont souvent mal à la tête, très souvent mal à la tête pour X raisons. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse. Mais du coup, les personnes qui ont des maux de tête répétés, et qui à chaque fois, justement, prennent du paracétamol en se disant franchement, ça marche, eh bien après, on peut avoir ce qu'on appelle des céphalées médicamenteuses. C'est-à-dire, en fait, des maux de tête entretenus par la prise de médicaments de manière chronique. Et ça, c'est quelque chose de fréquent. D'accord, et ça, les gens le savent pas. Et donc, ils entretiennent le cercle vicieux.
On risque de chroniciser la douleur.
Exactement.
C'est ça,
voilà, les céphalées médicamenteuses, ça s'appelle. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Si vous avez souvent mal à la tête, et si par exemple, on parle ce qu'on appelle les céphalées de tension, c'est quand même les maux de tête les plus fréquents. La céphalée de tension, c'est typiquement, voilà, grosse journée, je suis fatigué, beaucoup de stress, je rentre à la maison, j'ai un mal de crâne. Ça, c'est la céphalée de tension. Bon, eh bien. En général, il faut quand même identifier un petit peu tous les éléments qui nous ont amenés à avoir ce mal de tête pour travailler là-dessus, plutôt que se dire, bah, chaque soir, je prends un paracétamol. Et du coup, en prenant chaque soir un paracétamol, bah, on peut arriver à ce stade de céphalée médicamenteuse. Mmh. Donc ça, c'est pour l'aspect peu connu, mais quand même qui est assez fréquent. Et après, celui qui est plus connu, mais qui est finalement moins fréquent, paradoxalement.
Mais parce qu'il a été médiatisé aussi.
Voilà,
Il a été très médiatisé. Ouais.
C'est le foie, en fait. Donc, paracétamol est métabolisé par le foie, donc en gros, digéré, etc. Et à une certaine dose, il est toxique pour le foie. C'est pour ça, d'ailleurs, en France, si vous prenez n'importe quelle boîte de paracétamol, peu importe la marque, vous allez avoir 8 cachets à l'intérieur. Enfin, si c'est du 1 gramme. Si c'est des cachets de 500, vous en aurez 16 à l'intérieur. Parce que la dose maximale dans une boîte de paracétamol, c'est entre guillemets la dose au-dessus de laquelle ça devient létal. Ça peut vous tuer. Donc au moins, ils prennent la précaution dans le conditionnement de se dire, si quelqu'un un jour ne sait pas en fait, il se dit « Oh, j'ai trop mal, franchement, je vide la boîte. » Bon, certes, ce sera pas, il peut se passer des choses, mais on n'est pas au-dessus de la dose létale. Et j'ai appris d'ailleurs que ce n'était pas le cas en Belgique et en Suisse. Ils n'ont pas cette limite sur les conditionnements. On peut avoir 50 cachets dans une boîte.
Mais la posologie pour une journée, c'est pas 8 cachets pourtant.
Non, en fait, on peut monter sur 24 heures à 4 grammes. Donc, en gros, on préconise quand même 3 parce que 4, c'est sur 24 heures. On va dire que sur une journée où vous êtes éveillé, il faut s'arrêter à 3. Maintenant, si dans la nuit, vous n'êtes pas bien, vous pouvez prendre un quatrième. Et après, au-dessus de 4, on est sur des doses quand même de surdosage. Mais là, il y a toujours une histoire de variabilité individuelle. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, quelqu'un va prendre 5-6 grammes, donc c'est déjà trop. Mais peut-être qu'il ne va rien lui arriver et quelqu'un d'autre va avoir des lésions au niveau du foie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'au-dessus de 8 grammes, là, le foie, paf, ça peut exploser, hein, littéralement, mais enfin littéralement, c'est-à-dire vraiment, on arrive sur un stade d'hépatite fulminante. Le foie est out, et du coup, greffe de foie. Il n'y a pas le choix.
Alors, donc ça, c'était pour la classe 1.
Exactement.
Il y a une classe 2.
Classe 2. Alors, dans la classe 2, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, c'est le tramadol. Tramadol, donc le problème du tramadol, c'est qu'il est addictif.
Et c'est de la même famille que la...
Je pense que vous voulez dire la morphine, c'est ça ? Mais c'est pas la même famille.
Non, c'est
en
pas
fait,
la même
c'est
famille
un dérivé des opiacés. D'un point de vue pharmacologique, chimique, ça agit pas vraiment de la même manière. Mais ça s'apparente. Ça s'apparente. Et du coup, il y a ce côté addictogène. Hein, dont on peut être addict au tramadol. Et ça, c'est la problématique. Parce que des fois, le tramadol est instauré pour des douleurs. Et en fait, le tramadol, c'est utile. Hein, parce que des fois, le paracétamol, ça ne vous soulagera pas.
Hein. Alors, on le prescrit dans quelles indications, le tramadol ?
Je vous donne un exemple simple. Vous venez de vous faire opérer. Bon, vous avez des douleurs. Vous n'allez pas les calmer avec juste du paracétamol. pas forcément chez tout le monde, mais des fois, en sortie d'une grosse opération, vous allez vraiment très mal. Bon, bah, faut bien vous donner quelque chose pour vous soulager. Et même si c'est de manière temporaire, faut donner quelque chose. Ça, c'est une indication, par exemple. Donc, on veut donner du tramadol. Mais en fait, le problème, c'est que dès l'initiation du traitement, faut dire aux gens, c'est pour une certaine durée. Parce que, pris de manière prolongée, vous pouvez être accro. Parce qu'en fait, comme c'est un dérivé des opiacés, il va donner aussi des sensations de bien-être. C'est-à-dire, au-delà de soulager la douleur, ça va vous faire un effet bien. Et du coup, j'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne sur le tramadol. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent, à peu près d'un moment, je suis arrivé au stade où je prenais le tramadol juste pour me sentir bien, moins anxieux et soulagé, mais je le prenais pas pour les douleurs, en fait. Et du coup, quand on arrive à ce stade, bah, on est passé de l'autre côté. Et du coup, il faut le savoir. Le tramadol, moi-même, j'en prescris, je peux le prescrire, mais on dit, voilà, c'est vraiment pour les grosses douleurs. Et c'est vraiment de manière ponctuelle ou sur une courte durée. Dès que ça va mieux, on arrête.
Mais vous le prescrivez de façon détendue ou ça vous embête de prescrire du tramadol?
Non, je ne vais pas vous mentir, je prescris de manière détendue.
D'accord.
Parce que je sais ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, il faut pas...
Alors, vous dites quoi à quelqu'un qui vous prescrivait du tramadol? C'est la première fois que j'entends ça, hein.
Alors, bah justement, le problème, par exemple, cette vidéo de tramadol a très bien marché, il y a eu beaucoup de commentaires, et les gens disaient, moi, quand on me l'a prescrit, on m'a rien dit. Donc en fait, je sors de l'hôpital, je me suis fait opérer, j'ai des grosses douleurs, on m'a donné une ordonnance valable pour un mois, j'ai du tramadol et je me retrouve à en prendre tout le temps parce que je sais pas, enfin c'est un antidouleur, on m'a donné ça, je suis pas médecin, je le prends. Et après, des fois, on entre dans le cercle, le truc. Moi, je suis médecin généraliste, je vois des personnes. Je vais voir quelqu'un, par exemple, qui va faire un... Quel exemple je peux donner? Voilà, une grosse sciatique. Voilà, une grosse sciatique. Le mec, il n'en peut plus, il est plié en deux. Doliprane, ça fait rien. Il prend des anti-inflammatoires, ça soulage un peu, mais voilà, il faut quelque chose quand même qui le calme bien, qui va durer sur la journée. En plus, tramadol, il y a des formes à libération prolongée, voilà, qu'on peut prendre, qui vont être efficaces sur 12 heures. Ok, vous allez prendre ça, mais on reste 4-5 jours max. Ok? On prend pas plus. Mais je le donne parce que la personne, moi, mon but, c'est de soulager sa douleur. La douleur, ça rend fou. D'ailleurs, ce serait bien une émission, Philippe, sur la douleur. La douleur peut vous rendre fou. Ça, c'est un bon sujet.
Mais la douleur, c'est très personnel, en fait. Il y a des gens qui sont très, qui sont très résistants à la douleur. Et il y a des gens qui sont pas du tout résistants. Et donc, c'est vrai que c'est très personnel, hein, la façon dont on ressent la douleur.
C'est personnel, ça dépend aussi du contexte psychologique, de l'état dans lequel on est, enfin de beaucoup de choses. Mais enfin bref, pour revenir à notre histoire, bon, les gens, faut les soulager. Donc moi, je prescris de manière détendue un antalgique, un antidouleur adapté à la douleur, mais avec les précautions en disant attention, ça, comme vous l'avez dit, c'est pas bonbon.
Alors, on verra tout à l'heure sur quelle durée le tramadol. Hein. On parle de médicaments, l'anotis, le docteur Walid Mekedem est notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Walid Mekedem qui est avec nous aujourd'hui, on parle des médicaments et de la notice, comment bien utiliser les médicaments et à bon usage et avec la bonne posologie. On parlait du tramadol tout à l'heure. Quelle est la bonne durée? À partir de quel moment on risque l'accoutumance?
Alors, c'est une bonne question. J'aurais pas un chiffre à donner parce que ça va dépendre beaucoup des personnes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un moment, si on n'arrive pas à gérer la douleur avec une molécule, faut se poser des questions. Pourquoi? Donc, et après, des fois, il faut adapter le traitement, des fois, il faut changer, des fois, il faut comprendre la cause, il faut soigner la cause. Mais voilà, faut savoir que le tramadol, ça fait juste soulager la douleur, ça guérit rien. Donc vous avez mal.
Oui, ça soigne le symptôme, mais pas la cause.
Bah voilà, donc on peut l'utiliser, il y a pas de problème. Il faut savoir que ça va soulager une douleur. Si on sait pourquoi on a mal, bon c'est tout, il y a pas de problème. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, vous vous êtes fait opérer, l'opération s'est bien passée, vous avez des douleurs post-opératoires, c'est tout à fait normal. Donc pendant une semaine, si vous prenez du tramadol, il y a pas de souci. Maintenant, si vous avez mal un mois après, bon faut se poser des questions quand même. Donc voilà, c'est là-dessus. Donc en fait, l'histoire de timing, il n'y a pas de bonne réponse. C'est le contexte qui fait nous poser des questions. Est-ce qu'il faut quand même le continuer ou pas?
Non, mais c'est une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois.
Un mois, c'est trop. Bah, je vous dis, un mois, c'est trop. Une semaine, ça me paraît tout à fait normal. Ouais. Une semaine de tramadol, même, allez. Deux semaines, ça commence à faire long quand même, je trouve. Hein. C'est pas normal de devoir prendre deux semaines du tramadol. On va dire qu'au-delà d'une semaine, c'est un peu limite. Hein.
Troisième famille des antidouleurs, donc.
Alors, c'est bah, tout ce qui est morphinique, en fait.
D'accord. Donc est-ce que c'est pas en vente libre, hein, de toute façon?
Non, c'est pas en vente libre, c'est sur ordonnance sécurisée. Donc, c'est des ordonnances à part pour pas qu'il y ait de trafic, etc.
Alors, parce que les médicaments dont on parle et dont on vient de parler font l'objet de trafic.
Alors, tramadol, oui, maintenant. C'est assez nouveau, d'ailleurs. Enfin, non, c'est pas assez nouveau, mais c'est-à-dire que le tramadol, oui, il y a des gens qui... Bah, comme d'autres médicaments, je sais pas si on en parle tout de suite, mais il y a d'autres médicaments, il y en a un qui est très à la mode dans les rues. Est-ce que je le cite maintenant ?
Ouais, allez-y.
C'est la prégabaline. C'est aussi connu sous le nom de Lyrica. Alors ça, ça fait fureur, entre guillemets, parce que ça...
Prégabaline.
Voilà, les gens le connaissent plus sous le nom de Lyrica.
Schkoun.
Vous connaissez pas ?
Ah non, pas du tout. Non. Je suis pas dans les rues, moi, Walid Mekedem.
Prégabaline.
Je suis en de la compagne.
D'accord, non, bah, en fait, c'est un traitement utilisé normalement pour les douleurs neuropathiques. Donc les douleurs neuropathiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des douleurs qui se différencient du « ah j'ai mal, je me suis cogné » ou « ah j'ai mal à la tête ». Douleurs neuropathiques, souvent, c'est des douleurs qui ont une caractéristique spécifique, genre fourmillement, brûlure, décharge, courant électrique, voilà, qui évoluent de manière chronique. Et souvent, les douleurs neuropathiques, bah, ça fait suite à des lésions nerveuses. Voilà, donc en gros, il faut retenir ça, douleurs neuropathiques, lésions d'un nerf à un niveau, et du coup des douleurs bizarres. Et pour soulager ce type de douleur, le doliprane, feralgan, même tramadol, ça marche pas forcément. Et du coup, il y a des classes de médicaments adaptés pour soulager ces douleurs. Parmi ces classes de médicaments, il y a la prégabaline. Sauf que, en fait,
c'est quoi ? C'est la marque ou la molécule, en fait ?
Prégabaline, c'est la molécule.
C'est la molécule.
Lyrica, c'est la marque.
D'accord.
La plus connue.
D'accord.
Lyrica, c'est la marque.
Au moins, c'est clair.
Voilà, prégabaline, la molécule. Lyrica, la marque. Et en fait, il faut savoir que c'est même pas en première intention qu'on le donne. Peut-être qu'avant, c'était le cas. Mais en tout cas, maintenant, non, on le met même pas en première intention. Et ce médicament a un effet euphorisant. C'est-à-dire, à la fois, il soulage votre douleur, mais. Voilà, c'est un peu comme le tramadol dans le sens, il vous met bien, entre guillemets. Et il y a les gens, voilà, qui le vendent dans la rue, qui le consomment, ils l'utilisent à ce but-là. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il est utilisé dans la douleur neuropathique, mais aussi, certaines fois, dans les troubles anxieux généralisés. Donc, c'est aussi un médicament utilisé en psychiatrie. Mais pareil, pas en première intention. Donc, vous vous doutez bien, si on l'utilise dans le trouble anxieux généralisé, eh ben, il a cet effet. On sait qu'il a cet effet où il va vous détendre, vous soulager, vous mettre bien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été détourné et c'est devenu un stupéfiant en fait. Donc il y a un mauvais usage, les gens l'achètent comme ça. Et moi j'ai vu des patients qui sont accros à la prégabaline. Enfin accros c'est peut-être pas le bon terme, addict. Et du coup bah après, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet et en commentaire j'ai des témoignages de gens qui disent bah voilà, je suis tombé dedans quoi en fait. Et d'ailleurs pour revenir juste sur tramadol, il y a des gens qui ensuite ont des traitements de substitution pour arrêter. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, il y a les personnes qui étaient accros à l'héroïne, quand elles arrêtent, maintenant elles sont sous méthadone ou buprénorphine, c'est le Subutex. Tramadol, c'est pareil. Si vous êtes accro au tramadol, bah, si on vous arrête comme ça d'un
coup... Donc il y a un syndrome de sevrage, c'est
voilà,
ça ?
Exactement.
D'accord.
En gros, vous ne pouvez pas arrêter comme ça. C'est-à-dire...
Mais c'est comme les corticoïdes, en fait.
Ouais, enfin, c'est-à-dire que le corticoïde, on va pas mettre quelque chose pour le remplacer, on va devoir l'arrêter doucement. Mais le tramadol, si vous l'arrêtez brutalement, paf, c'est comme quelqu'un qui doit boire et qui arrête de boire d'un coup, il va faire un syndrome de sevrage. Donc, pour éviter cette souffrance et pour pouvoir arrêter le médicament tout de même, on est obligé de mettre des médicaments de substitution, comme par exemple la méthadone ou le Subutex, histoire d'arrêter tranquillement, comme ça on enlève le tramadol, on prend le Subutex un certain temps, après on prend plus rien. Mais si on arrête d'un coup tramadol...
Oui, tout ça pour dire que prendre ces médicaments, c'est pas anodin.
Ah non, c'est pas anodin voilà, du tout, il faut le dire.
Si c'est pour se taper un syndrome de sevrage derrière...
Exactement.
C'est pas anodin. Le prégabaline dont vous parlez, il fait partie de la classe 3 des antidouleurs ou pas du tout ?
Non, c'est pas du tout un médicament de la classe des antidouleurs.
D'accord.
Prégabaline, c'est un antiépileptique.
D'accord.
Voilà, j'ai oublié de le dire peut-être, mais dans les douleurs neuropathiques, donc on utilise deux types, en gros les deux grandes familles utilisées, c'est les antidépresseurs et les antiépileptiques. Mais dans les antiépileptiques, on préfère mettre ce qu'on appelle la gabapentine, par exemple, ce qui est appelé Neurontin aussi. Mais en fait, ce prégabaline Lyrica, c'est passé vraiment après, quoi. En mode, ça n'a pas marché. Bon, on teste.
Mmh.
Voilà, on teste, mais oui, voilà. Donc, c'est vraiment pas un médicament anodin. C'est prescrit dans certaines indications. Et dans ces indications, c'est même pas prescrit en premier. Donc, voilà, il faut le savoir, quoi. C'est important de le savoir.
Bien, donc à part les médicaments morphiniques pour les douleurs, il y a d'autres choses ? dont vous voulez nous parler ou pas, parce que sinon on passe à autre chose.
On
va parler des benzodiazépines. Donc les benzodiazépines, ça appartient à la famille des anxiolytiques.
Voilà, exactement, exactement. Les benzodiazépines sont une famille justement d'anxiolytiques. Et donc, que dire sur le sujet ?
Alors les marques, déjà, on les connaît sous quelle marque ?
Ah, ça va parler à beaucoup de monde. Xanax, Lexomil, Seresta, Temesta. Ça fait déjà pas mal. Après, Noctamide. Enfin bref, vous voyez, il y a beaucoup.
Soyez
de.
Soyez polis, s'il vous plaît.
Ça, c'est les noms de marques, mais en fait, les noms de molécules, ça finit toujours en AM. Donc, oxazépam, lorazépam, alprazolam, vous voyez, tout ce qui finit en AM, c'est des benzodiazépines.
Bien. Alors, on les prescrit donc. Alors, attention à ne pas confondre avec antidépresseurs, hein, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est important de préciser aux gens que les anti-anxiolytiques c'est pas la même famille.
Exactement. En gros, pour faire le comparatif, l'anxiolytique, c'est le paracétamol de l'angoisse, voilà, de l'anxiété. C'est-à-dire, c'est un effet immédiat. Vous êtes très anxieux, vous prenez ça direct.
Ça agit tout de suite, c'est ça ?
Ça agit tout de suite. Ah ouais. Ça agit tout de suite. Et donc, des fois, pour passer un certain cap, une certaine situation, un certain moment de vie, on peut avoir besoin de ça de manière très courte. C'est-à-dire, si je prends l'exemple pour revenir de la dépression, si vous faites une dépression bien avérée, que vous êtes très angoissé, très anxieux, que vous avez du mal à dormir, le temps que l'antidépresseur, qui lui va être le traitement de fond, que vous allez prendre pendant longtemps, c'est fait, faut bien vous donner un genre de paracétamol.
C'est-à-dire
de l'angoisse.
Qu'en fait, l'antidépresseur, il va mettre du temps pour agir.
Exactement.
C'est ça. C'est quoi? C'est 20 jours? C'est combien?
C'est à peu près ça, 3 ouais. semaines.
Voilà. Donc, entre-temps, vous allez donc passer sous les autres traitements.
Voilà. Tout le monde ne va pas le faire, mais ça dépend en fait des symptômes. Parce que voilà, je parlais d'angoisse dans la dépression, c'est pas forcément tout le monde qui présente des grosses angoisses en étant déprimé. Il y en a, ce sera plus la tristesse de l'humeur, voilà, le fait de perdre, d'avoir une perte de motivation, enfin plein d'autres symptômes. Mais chez certaines personnes, l'angoisse sera très marquée. Voilà. Et l'angoisse peut générer aussi les insomnies. Et qui dit je dors pas bien, dit je vais pas être bien. Donc au bout d'un moment, on se dit bon, faut faire un petit quelque chose. Donc oui, on peut prescrire des anxiolytiques sur une courte durée. Et ça, c'est comme les autres médicaments que j'ai cités tout à l'heure, ça c'est très très addictogène. En fait, sur le cerveau, ça agit un peu comme l'alcool. Voilà, c'est un peu ces mêmes récepteurs, on va dire. Donc, alcool, anxiolytique, effet immédiat, apaisement, anxiolyse. Donc, il y en a, ils vont chercher la bouteille d'alcool pour chercher l'effet du Xanax, en fait. Il y en a, ils vont prendre le Xanax et il y en a, ils vont mélanger les deux.
Alcool et Xanax.
Pas bon, hein. Ça...
Non, mais là, on est en train de parler de classes de médicaments qui sont très prescrites, hein.
Exactement.
C'est pas du tout marginal.
C'est pas non, en France, on est des champions, hein, des anxiolytiques. Donc je dis pas que c'est des médicaments qu'il faut pas prendre du tout. Je dis faut savoir que un, on peut devenir addict, d'accord. Que deux, si justement on est addict, pour les arrêter, c'est comme quelqu'un qui prend de l'alcool, il peut pas arrêter comme ça, il va faire un syndrome de sevrage. Et trois, que voilà, on peut le prendre quand. Quand vraiment justement il y a indication, grosse angoisse, anxiété, moment de vie difficile, sur une courte durée, avec des faibles doses, en sachant de base à l'initiation du traitement, qu'il faut penser déjà à quand est-ce qu'on va l'arrêter. Et
alors,
comment.
Quelle est la bonne utilisation finalement ?
Bonne utilisation, donc courte durée, voilà, faible posologie, savoir d'emblée à l'initiation pendant combien de temps on va le prendre. D'accord. Et quatre, mettre du coup en œuvre les choses de manière parallèle pour, on va dire, faire que la situation du moment aille mieux. Si c'est une dépression, il faut un traitement pour la dépression, il faut toute la psychothérapie, tout le changement d'environnement autour qui va avec. Mais il faut traiter le fond du problème, la cause. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme je parlais de douleur, il y a des gens, on ne peut pas les laisser en souffrance non plus. Au bout d'un moment, ça cherche, c'est vrai, à soigner uniquement un symptôme, pas la cause. Je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, le symptôme, il peut vous pourrir la vie, quoi. Hein, je veux dire, donc il faut soulager aussi les symptômes, mais il faut avoir ça en tête. Donc, je dis pas non médicaments, je dis oui, mais bien respecter, attention justement avec l'âge.
Pourquoi
l'âge, parce que du coup, avec l'âge, ça peut avoir des effets plus graves, comme par exemple les chutes. Voilà, une personne âgée, vous lui mettez une benzo, il y a la risque de chute, personne âgée, fragile, ostéoporose, fracture du poil du fémur. Voilà, après, c'est des cascades. Hein. Donc.
Mais si ça arrive chez les personnes âgées, j'imagine que ça arrive de la même façon chez les jeunes, les personnes
un peu
plus jeunes.
Non, mais chez les jeunes, ça va être d'autres usages. Par exemple, ça va être le mélange, comme j'ai dit, alcool-médicament. C'est pas vraiment du tout. Hein. Ça, c'est même, ça vous fait des amnésies, vous oubliez tout, blackout. Donc vraiment, c'est pas bon, c'est dangereux.
Donc le secret, c'est de se limiter dans la durée, c'est ça?
Voilà, se limiter dans la durée, savoir vraiment pourquoi on le prend, savoir justement les effets indésirables que ça peut générer, savoir, comme je l'ai dit, combien de temps ça va durer, comment on va l'arrêter, prévoir un schéma pour l'arrêt, un schéma progressif, et puis voilà, et être surtout accompagné. Voilà, c'est pas, on fait pas d'automédication avec ce genre de médicaments.
Oui, mais là encore, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent chez leur médecin et qui disent, est-ce que vous pouvez me...
Oui, bah oui.
Oui. Je veux mon Xanax, je veux mon...
Exactement. J'ai l'habitude. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Après, vous voyez, là, je prends du temps pour vous expliquer ça. Franchement, c'est difficile, quand le schéma se répète, mais c'est pour ça que c'est bien de faire ce genre de contenu, de vidéo. Il faut que le message y passe. C'est pas un médicament qu'on doit prendre tout le temps. En plus, vous allez avancer en âge, vous allez avoir des problèmes de mémoire, etc. Enfin, comme j'ai dit, il y a des risques de chute. Donc,
Encore une fois, il y a des effets à le prendre de façon prolongée. C'est ça qu'il faut comprendre.
Voilà, exactement.
C'est pas anodin, ça non plus. Il y a toujours des effets secondaires dans les médicaments. Alors, on en parle peu, mais il y a, enfin, pas, je sais pas s'il y en a toujours, mais il y en a souvent des effets secondaires.
En fait, c'est toujours possible. Hein. C'est-à-dire, on connaît tous, hein. Nous on a tous déjà testé certains médicaments, bon, on a parfois uniquement l'effet positif. L'effet indésirable, en fait, souvent, il vient d'un mésusage, d'accord ? C'est pas le médicament le problème, c'est l'utilisation.
Le docteur Walid Mekedem est avec nous, on va parler d'une autre star des pharmacies, l'oméprazole. Si vous voulez, dans un instant, restez avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Walid Mekedem, alors vous le retrouvez hein, sur la chaîne qui porte son nom désormais, on l'a connu, c'était à Vicennes, maintenant voilà, il s'est réapproprié son identité.
J'étais pas médecin quand Vicennes en fait est né, quand j'ai fait ma chaîne à Vicennes. Maintenant que ça fait 3 ans.
Vous étiez étudiant en médecine.
Oui, mais moi j'avais pas le titre de docteur, donc au bout d'un moment je me suis dit ah c'est bon, on va changer quand même de nom et puis on va mettre le sien, hein, docteur Walid Mekedem.
Et la rumeur dit que vous allez vous installer dans un cabinet luxueux à Paris.
On va laisser courir la rumeur pour l'instant.
Je vous donnerai l'adresse. Et le 06 du docteur Mekedem, si vous cherchez un médecin traitant, je sais qu'à Paris, c'est tellement la galère de trouver des médecins traitants.
C'est pas facile.
Voilà, il faut, si vous voulez un médecin...
Changeons de sujet, parlons médicaments.
Ok, avant de revenir sur l'oméprazole, je voudrais qu'on termine sur les antidépresseurs. Fondamentalement, c'est quoi la différence entre un anxiolytique et un antidépresseur?
Alors, comme je disais, l'anxiolytique, c'est un peu un effet immédiat sur l'angoisse uniquement, l'anxiété, pour aussi faciliter un peu à dormir. Mais l'antidépresseur, lui, il va vraiment agir sur la maladie de la dépression. Et la dépression, c'est un ensemble de symptômes. C'est pas que les angoisses. C'est, comme je disais, tristesse de l'humeur, perte de la libido, perte d'appétit, envie de dormir tout le temps, plus de motivation. Vous voyez, à ça, on peut rajouter l'angoisse, l'anxiété, les idées noires. Ça, c'est la dépression, vous voyez.
Donc, traitement de fond.
De cette maladie. D'accord. Et ça va prendre du temps à agir, d'accord. Et donc, il faut un traitement, ça se prend qu'une fois par jour. Et ça se prend sur la durée. Si on fait une vraie dépression, il faut savoir, pour le coup, c'est au moins 6 mois, en général, de traitement.
Mais est-ce qu'il y a des risques d'accoutumance ou pas ?
Non, pas pour les antidépresseurs. Antidépresseurs, vous le prenez une fois par jour. Tout doucement, j'espère que ça va aller mieux. La dépression disparaît et tout doucement, on arrête le traitement de manière progressive. Voilà. En plus, ça rassure les gens et c'est ce qu'il faut faire de toute manière. Mais on l'arrête de manière progressive et puis basta. Vraiment, celui qui donne les accoutumances, c'est l'anxiolytique.
Bien. Alors, l'oméprazole, alors c'est une star. Enfin, c'est la molécule, hein, oméprazole d'ailleurs. Hein.
Exactement. Oméprazole, pantoprazole, ésoméprazole, lansoprazole. Les gens connaissent, ça finit en zole. mais pas à confondre parce qu'il y a quand même des antimycoses qui finissent en ol. Mais bon, en général, quand les gens entendent un médicament qui finisse par ol, c'est souvent un médicament pour l'estomac. Et donc, ça, c'est
alors,
un médicament.
Ça appartient à quelle famille ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des IPP, donc inhibiteurs de la pompe à proton.
Schkoun. La pompe à proton.
La pompe à proton. Bah, du coup, proton, c'est, en chimie, c'est H+, et du coup, pour faire simple, au niveau de l'estomac, voilà, vous allez avoir des cellules qui vont sécréter ce proton, qui va se mélanger au chlore, ça fait de l'acide chlorhydrique, ça donne l'acide dans l'estomac. On arrête ça, on inhibe la pompe à proton, on calme les acides, on calme l'acidité.
Donc, c'est pour les gens qui ont des remontées acides, en fait.
Voilà, enfin, pas que, non. Mais donc pour les gens qui ont des reflux, effectivement.
Les RGO, ce qu'on appelle les...
RGO, donc reflux acide, brûlure de l'estomac, remontée, régurgitation qui vont avec. Mais du coup, ça soigne aussi l'ulcère, hein, d'accord. On va soigner, ça fait partie du traitement de l'ulcère et de l'œsophagite. l'œsophagie, donc inflammation, ulcération au niveau aussi de l'œsophage. Donc c'est le traitement, et ça fait partie aussi, quand on va par exemple avoir une bactérie dans l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori, qui va favoriser aussi beaucoup la sécrétion d'acide, dans le traitement, on a des traitements antibiotiques et on a l'antiacide. Voilà un petit peu pourquoi on va l'utiliser.
Bon, alors quel est le problème avec les IPP ?
Les gens le prennent tout le temps. Enfin, les gens, désolé, je regarde la vidéo. C'est-à-dire, c'est vraiment un médicament. Voilà, il est banalisé. On se dit, ouais, c'est un médicament pour l'estomac, j'ai de l'acidité. Et donc, je le prends tout le temps parce que si je le prends pas, j'ai des reflux. Non !
Ils reviennent pas quand on arrête les IPP ?
Comment ça, ils reviennent pas ?
C'est-à-dire que les reflux.
Ouais. Non, bah justement.
Quand on arrête les IPP,
ouais.
Ils reviennent pas ?
Alors, en fait, ça peut arriver à tout le monde d'avoir, de manière temporaire, des remontées acides, des brûlures d'estomac. Pour X raisons. Et c'est vrai que des fois, on peut être amené à prendre ce genre de traitement de 3 semaines. Ah, ça va mieux à faire classer. Maintenant, si vous avez tout le temps des remontées acides, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, quel peut être ce problème ? Hein ? Peut-être une hernie hiatale. Voilà. Le surpoids. Vous mangez trop. Vous mangez trop et vous mangez juste avant d'aller dormir. Vous consommez certains aliments. Vous buvez beaucoup de café. Vous buvez beaucoup d'alcool. Il y a des causes au reflux acide. D'accord ? Et donc, on en revient. J'ai fait une vidéo sur le sujet, comment un peu traiter les reflux acides. Parce que voilà, derrière ce reflux, en général, il y a un problème. Maintenant, si le reflux arrive une fois de temps en temps, bon, ça peut arriver à n'importe qui sans qu'il y ait un gros problème. On peut être amené à donner ce médicament. Ok, tant mieux, ça marche bien. Pas trop de soucis quand on le prend sur une courte durée. Ok. Maintenant, les personnes qui vous disent, ça fait 3 ans que je prends de l'oméprazole et si je le prends pas, ça va pas. Non. Non. Je suis pas d'accord.
Risque d'accoutumance ou pas sur l'oméprazole ?
C'est pas une accoutumance.
C'est du mésusage.
Ouais, c'est pas une accoutumance dans le sens, oh, je prends, je fais un syndrome de sevrage, je vais convulser, je vais tomber par terre. Non, on n'est pas sur un médicament comme le tramadol, etc. Mais on va avoir des effets indésirables liés à la prise au long cours d'un traitement qui est censé être pris max 2 mois. Donc vous allez avoir. Est-ce que je cite les effets indésirables ?
Allez-y.
Bon, en fait, déjà la base, c'est qu'on va avoir des problèmes d'absorption. Ça agit sur l'estomac. L'estomac, il est fait naturellement pour avoir un certain pH, une certaine acidité. Mmh. Ça marche comme ça. Mmh. D'accord ? Si vous enlevez ça, bon, le premier organe qui rencontre vos aliments, déjà, il y a un problème. Hein. Donc, vous pouvez avoir une malabsorption de certains minéraux, certaines vitamines, par exemple la vitamine B12. Et là, après, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la conséquence de chaque manque de vitamine, mais bon, c'est un problème, malabsorption.
On peut avoir... Parce qu'on a supprimé l'acidité.
Exactement.
C'est ça.
Ouais. Voilà, exactement. Ouais. On peut avoir supprimé l'acidité. Après, le fait de supprimer l'acidité, ça peut favoriser l'apparition de certains germes, donc certaines infections. Voilà, donc ça aussi, il faut le savoir. Et puis, quand on a d'ailleurs de l'acidité, on inhale des fois. Il y a des gens qui font du reflux, ils inhalent. Donc voilà, j'ai lu certains papiers et études qui disaient que ça pouvait favoriser même des infections pulmonaires. Parce qu'en fait, vous avez l'acidité qui diminue, ça favorise l'apparition de certains germes. Vous dormez la nuit, vous inhalez, paf, infection. Après, il y a des études qui parlent aussi du fait que ça peut, avec le long terme, favoriser l'ostéoporose. D'autres qui vont parler aussi du déclin cognitif. Donc il y a quand même pas mal de choses. Le numéro 1, c'est quand même la malabsorption. Après, ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est l'interaction médicamenteuse. Si vous avez de base d'autres traitements, par exemple, traitement classique de la thyroïde, vous avez un problème de thyroïde, là pour le coup vous avez besoin de votre traitement, sinon c'est la catastrophe. Ça, c'est un traitement au long cours, point. Bah, si vous prenez tout le temps l'oméprazole, bah peut-être que voilà, vous allez avoir une efficacité de votre traitement de la thyroïde. Pourquoi je teste tout le temps ma TSH, elle est tout le temps pas bonne, je dois monter mon traitement, nanana. Bah, parfois, peut-être il suffit juste d'enlever un médicament qui fait qu'on absorbe moins bien le traitement ou qu'on a une interaction, on soulage.
L'interaction médicamenteuse pour tout le monde, c'est...
Bah, c'est quand deux médicaments s'entendent pas trop, quoi, en fait.
Non, mais c'est surtout que l'un annule l'effet de l'autre.
Voilà, annule ou major, c'est possible.
Ouais, ou major, ouais. Donc, mais ça, c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. On sait que le pamplemousse, par exemple, était un...
Ouais, par exemple, pour la pilule.
Oui, le pamplemousse, fais attention au pamplemousse hein, et au jus de pamplemousse.
J'ai une histoire comme ça, une dame qui est tombée enceinte sous pilule. Elle mangeait beaucoup de pamplemousse.
Oui, donc c'est pour ça. Mine de rien, quand vous prenez des traitements, il y a des interactions médicamenteuses et qu'on ne soupçonne pas.
Ou alimentaire, parce que pamplemousse, c'est, oui. Pas, c'est un aliment. Pareil, les gens qui prennent des anticoagulants AVK, ceux qui mangent beaucoup de choux et tout ça, des fois, surdosage ou sous-dosage, peu importe, mais en tout cas, il y a une interaction avec le chou. Bizarre, hein.
En plus, ça fait des flatulences. Non, c'est ce que vous avez fait avec votre bouche, mais que personne n'a vu, donc je...
Ils vont voir en vidéo.
Je vous dénonce, docteur Mekedem. Un médicament, il y a les médicaments qu'on prend au long cours, même si j'ai l'impression qu'il a moins la cote d'avant, justement à cause du paracétamol, c'est l'aspirine. Quels sont les risques de prendre de l'aspirine ? Alors déjà, quelle est la molécule de l'aspirine ?
Alors, c'est comment ça se prononce déjà ? Acide acétyl salicylique.
Ouais.
Voilà, acide acétyl salicylique. Donc l'aspirine, alors plusieurs propriétés. Aspirine, ça dépend du dosage. Antidouleur, antifièvre, anti-inflammatoire et anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire que ça joue sur le sang. Donc en gros, ça évite de faire des cailloux. Donc, à quelle question là je dois répondre exactement ?
La question, c'est de savoir quel est le risque de prendre de l'aspirine au long cours et à quoi doit-on faire attention quand on prend de l'aspirine ?
Alors, très bonne question, parce qu'en fait, il y a une indication, il y en a plusieurs, à prendre l'aspirine au long cours. Et là, vous ne pouvez pas trop y échapper. Si vous avez déjà fait un accident cardiovasculaire, que vous avez fait un AVC, que vous avez fait un infarctus, que vous avez de l'artérite au niveau des jambes, que vous avez déjà eu un geste où on vous a mis un stent quelque part dans une artère, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre l'aspirine, sinon il y a un moment...
Pour fluidifier le sang.
Voilà. D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, c'est pas que ça fluidifie le sang, c'est que ça évite que les plaquettes s'agrègent à un certain endroit pour former un caillou. Vous vous coupez, ça sort, les plaquettes arrivent, boum. Voilà, c'est fini. Si vous prenez de l'aspirine, ça va être compliqué. Mais c'est le principe même de l'infarctus. Vous avez la tuyauterie qui est tellement abîmée que quand le sang passe, le flux fait que les plaquettes s'agrègent, bam, il y a un caillou. Donc si déjà ça vous est arrivé d'avoir un infarctus, un AVC, que vous avez de l'artérite, on sait que la tuyauterie, elle est pas bonne. Mmh. Si on met pas d'aspirine, au bout d'un moment, il va avoir une récidive, quoi. Donc l'aspirine, si vous êtes dans ces indications, ça fait partie du traitement long cours.
Mais alors pourquoi qu'il faut éviter de prendre, par exemple, de l'aspirine, docteur McAdam, quand on a une infection ?
Alors, bonne question, mais je reviens juste un peu en arrière, parce que j'ai donné l'indication pour le long cours, mais il y a des gens qui se disent, bah du coup, moi je veux éviter que ça arrive, les infarctus AVC, je ne veux pas attendre que ça arrive avant d'en prendre.
En préventif.
Voilà, en préventif, et ça c'est la question, est-ce qu'on doit prendre l'aspirine au long cours en préventif ? Eh bien la réponse est non, donc en plus c'est assez récent, hein, enfin bref, je ne rentrerai dans les détails, mais en gros, il y a plus de risques de saigner, du coup, si vous n'est jamais arrivé quelque chose, que d'avoir un bénéfice. Si vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, vous pétez la forme. Bon, prenez pas de l'aspirine au long cours. Vous avez plus de risques qu'un jour ça vous fasse saigner. Par exemple, vous allez tomber, vous allez vous cogner la tête, paf, vous allez faire une hémorragie cérébrale parce que vous prenez de l'aspirine. Ça n'a pas de sens. Par contre, oui, vous avez fait un AVC, un infarctus, vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc voilà pour répondre à la question. Pas d'aspirine au long cours en prévention primaire si vous n'est jamais rien arrivé. Et par contre, obligatoire en prévention secondaire si vous arrivez quelque chose.
Donc ça, de toute façon, c'est prescrit. Maintenant, pour les infections, quels sont les risques ?
Alors, bonne question. Aspirine, c'est une action anti-inflammatoire. Or, l'inflammation permet de lutter contre l'infection. D'accord ? Donc, si vous avez une infection, que vous supprimez l'inflammation, bah, vous allez faire flamber l'infection. Tout simplement. Donc, en fait, quand vous avez une infection et que vous avez soit des douleurs, soit des fièvres, on revient sur une classe de médicaments dont on a parlé tout à l'heure, paracétamol. Voilà, il n'y a pas de risque. Vous prenez ça, vous calmez, tranquille. Ouais. Maintenant, vous prenez aspirine, vous prenez des médicaments anti-inflammatoires, type ibuprofène, kétoprofène et tout ça, paf. L'exemple typique, c'est rage de dents. J'ai une rage de dents, je prends un ibuprofène, ça va me calmer, oui, ça va vous calmer sur un certain temps, mais pour peu qu'en fait, il y avait un début d'infection, paf, abcès dentaire. Gros classique, hein. Un gros classique. Les abcès, en général, c'est le truc le plus fréquent qui flambe quand les gens prennent des anti-inflammatoires. Ils ont mal quelque part, ils prennent un ibuprofène, ils finissent avec un abcès énorme.
Justement, je voulais qu'on termine avec les anti-inflammatoires. Non, je vais qu'on termine avec les corticoïdes.
Ok.
Voilà. J'ai appris quelque chose en regardant une de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, Dr McAdam.
Abonnez-vous.
C'est que le... c'est bien. C'est bien. C'est bien
ce je fais de la pub. Non,
c'est bien, vous avez raison.
Sur ma chaîne, je me fais de la pub.
Avec la petite cloche. C'est que les corticoïdes déréglaient le diabète.
Oui, bien sûr. Bah, le cortisol, nous on sécrète du cortisol et ça a une action hyperglycémiante, d'accord ? Donc si vous prenez des corticoïdes, c'est du cortisol, enfin ça vient de l'extérieur, mais vous allez monter votre glycémie. Donc si vous êtes diabétique et vous avez un traitement corticoïde, bah, faut savoir que ça va dérégler votre diabète, c'est sûr. Donc il faut le savoir, donc faut faire attention à ce que vous mangez, faut faire surveiller vos dextros, faut ajuster vos insulines si vous prenez de l'insuline, mais il faut le savoir. Bah, après il y a des gens, voilà, pour certaines indications, les corticoïdes, donc il n'y a pas le choix. Mais si vous êtes diabétique, surveillez bien votre diabète.
D'accord. Donc, les corticoïdes, corti, c'est pour quoi ?
Bah, c'est pour cortisol, cortisone, cortisol. Mais en fait, nous, la molécule apparentée aux corticoïdes qu'on fabrique, c'est le cortisol.
D'accord.
C'est fabriqué par nos surrénales, c'est un truc, d'accord. C'est une genre de pyramide au-dessus des reins.
Ils fonctionnent comment, les corticoïdes ? C'est pareil, ça agit sur les hormones,
c'est un anti-inflammatoire, mais qu'on dit stéroïdien, en fait. C'est compliqué, ça rentre dans la cellule, etc. Enfin, on va pas entrer dans les processus chimiques et pharmacologiques, mais ça marche trop bien.
Alors pourquoi je voulais qu'on parle des corticoïdes? C'est parce que là aussi, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain.
Voilà. Enfin, à nuancer, si vous le prenez sur une très courte durée, genre 3-4 jours, oui, vous arrêtez d'un coup. Si ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, un mois que vous prenez des corticoïdes, non, vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, vous en fabriquez de base. Donc, vous fabriquez ça avec vos surrénales. Maintenant, si vous ramenez une grosse dose, parce que quand on en prend par la bouche, ce n'est pas des doses physiologiques, hein, c'est des doses médicaments. Le cerveau il dit oulala, il y a beaucoup de corticoïdes dans le corps, je mets en pause la machinerie, on met en pause les surrénales. Sauf que cortisol c'est indispensable au fonctionnement.
Ça veut dire qu'on le fabrique plus.
Vous fabriquez plus. Voilà,
ouais,
vous
mettez en pause. L'organisme se met en mode feignant.
Vous arrêtez d'un seul coup les corticoïdes, paf, vous faites ce qu'on appelle une insuffisance surrénalienne aiguë, c'est-à-dire les surrénales qui étaient censées en fabriquer pour que votre corps fonctionne, parce que le cortisol vous en fabriquez tout le temps, sinon bah, vous mourrez, et ben bah, il n'y en a plus. Bah, c'est la catastrophe.
Donc, comment on s'arrête?
Avec des doses décroissantes, progressives. Mmh. Voilà, au fur et à mesure. Mais en gros, il ne faut pas se poser cette question en dessous d'une semaine de traitement. On se pose cette question pour des maladies chroniques, avec des fortes doses. Voilà, je ne sais pas, par exemple, la sarcoïdose, bon, les gens ne le connaissent peut-être pas, mais le traitement, ça va être des corticoïdes pendant un an, voire plus. Bah, au bout d'un moment, quand on est guéri, eh ben, on descend progressivement sur plusieurs mois.
Docteur Walid Mekedem. Alors, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube, Docteur Mekedem, parce que nous aussi, nous avons une chaîne YouTube.
Bon, qui... Manifestation.
Mais la vôtre cartonne, Doc, on est très fiers de ça. Merci. On vous l'a connu, vous aviez 1000 abonnés. Donc là, merci. Maintenant, vous en avez 130 000. Voilà, et des millions de vues par mois. Donc, ça fait plaisir de voir que bah, ça cartonne et que les gens adhèrent à vos contenus, Docteur Mekedem.
Ah merci, bah abonnez-vous, hein, vous voilà. Êtes bienvenus.
Et vous verrez donc la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.